Radio Kapi.
Le journal, c'est avec patience. Ngalulambombo.
Le cardinal Fridolin Ambongo fustige la révision constitutionnelle. À la place, il propose que tous les moyens que le gouvernement compte mobiliser à cette fin soient plutôt orientés à l'encadrement de la jeunesse congolaise qui, selon lui, est abandonnée. Le prélat catholique l'a dit ce dimanche au cours de son homélie à l'occasion des journées diocésaines des jeunes catholiques à l'école Saint-Raphaël. Pas de nouvelles candidatures aux législatives nationales et provinciales du 15 décembre prochain à Massimanimba. Tous les candidats des scrutins de 2023 restent en lice. Précision donnée lors d'un cadre de concertation tenu par la CENI à Massimanimba dans les Kwilu. L'invité de ce journal est Liliane Moussaou, chargée de questions genre au projet d'appui à la connectivité. Elle parle du lancement bientôt des travaux de construction et bitumage de la RN2 Axe Mbujimayi-Kabinda-Banga au Kasaï oriental. Bonsoir à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, le ministre angolais de Relations extérieures, Tete Antonio, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, ont signé hier samedi à Luanda un protocole d'accord sur le soutien de la MONUSCO au mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR lancé à Goma le 5 novembre dernier. Dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024, l'accord prévoit le partage d'informations et des rapports de terrain. La chef de la MONUSCO appelle aussi toutes les parties impliquées à travailler de manière constructive, de bonne foi. Elle encourage également la communauté internationale à intensifier son soutien à la RDC et à la facilitation angolaise. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Monsieur Antonio a exprimé sa gratitude à la MONUSCO pour son soutien aux efforts diplomatiques multilatéraux menés par l'Angola afin de trouver une solution pacifique à la crise dans l'est de la RDC. Ce mémorandum reflète l'engagement de l'Angola à collaborer avec des organismes internationaux afin de restaurer la paix en RDC, protéger son intégrité territoriale et contribuer à la sécurité régionale, a dit Monsieur Antonio. Pour sa part, Madame Keïta a réitéré l'engagement de la MONUSCO à soutenir la facilitation angolaise dans le cadre du processus de Luanda et à accompagner toutes les initiatives politiques et diplomatiques visant à aboutir à une résolution pacifique de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et dans la région, afin de promouvoir une paix et un développement durable. Je salue une nouvelle fois le leadership de Son Excellence João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, pour sa facilitation du processus de Luanda qui a permis de favoriser une désescalade entre les parties en conflit, a déclaré Madame Keïta.
Le cardinal Fridolin Ambongo fustige la révision constitutionnelle. Le prélat catholique l'a dit ce dimanche à Kinshasa au cours de son homélie à l'occasion des journées diocésaines des jeunes catholiques à l'école Saint-Raphaël. Il a par exemple déclaré, je le cite, « Comment on peut dégager beaucoup d'énergie et de l'argent à parler de changement de la constitution au lieu de s'occuper de cette jeunesse abandonnée ?» Fin de citation. Que personne ne vous vole votre avenir. Malheureusement, avoir la réalité que vous vivez aujourd'hui, tout porte à croire que cette jeunesse est sacrifiée, a ajouté le cardinal Fridolin Ambongo. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Bien de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage à Kinshasa? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui?
Il n'y aura pas de nouvelles candidatures pour les élections législatives du 15 décembre 2024 à Massimanimba, malgré l'annulation des suffrages et les dossiers de la fraude électorale de certains candidats députés transmis au parquet près la Cour des cassations. Aucune décision judiciaire n'a établi leur déchéance. Du coup, tous les candidats des scrutins de 2023 restent en lice. Cette précision a été donnée lors d'un cadre de concertation tenu par la CENI à Massimanimba. À l'occasion, la centrale électorale sensibilise la population de ces territoires de la province du Kwilu à s'approprier la reprise de ces élections qu'elle qualifie de modèle. Dieudonné Mboukani, conseiller principal du président de la CENI, explique au micro de Irène Mbomaluzolo.
Il n'y aura pas de nouvelles candidatures parce que nous reprenons les élections avec les mêmes candidats. La Cour qui devait décider de l'invalidation des candidatures suite au mauvais comportement lors du scrutin passé ne s'est pas encore prononcée. Donc pour nous, la CENI, la liste des candidatures demeure celle qui était là lors du dernier scrutin qui s'était passé à Massimanimba. C'est pourquoi nous allons continuer avec les mêmes candidats. Il n'est pas du travail de la CENI d'invalider les candidatures. C'est la Cour qui doit invalider les candidatures. Et celle-ci avait reçu les dossiers complets de tous les candidats qui s'étaient mal comportés lors de ce scrutin-là. Jusqu'à aujourd'hui, aucune décision n'a été prise à leur sujet. Donc nous continuons avec les mêmes candidats aujourd'hui. Nous demandons à la population de s'approprier ces élections. Les élections qui se passent à Massimanimba, ce sont des élections type, des élections modèles que nous allons prendre comme exemple pour la suite des processus électoraux en République démocratique du Congo.
Pour sa part, l'administrateur du territoire de Massimanimba met en garde les médias locaux contre tout message de haine pendant toute la période électorale en cours dans cette partie du Kwilu. Dans une interview samedi, Emery Kangouma menace de fermer tout média qui va diffuser un message de haine incitant à la violence. D'après lui, l'autopsie faite sur l'annulation des élections de décembre dernier à Massimanimba a révélé que les médias ont joué un rôle important dans les troubles qui ont été enregistré lors de ces scrutins. Pour lui, le souci est de maintenir l'ordre sur l'ensemble du territoire pour que les élections du 15 décembre 2024 soient une réussite. Emery Kangouma, administrateur du territoire de Massimanimba, est au micro de Irène Mbomaluzolo.
Par rapport aux erreurs passées, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas croiser les bras. Quand la CENI est arrivée, on a demandé d'abord de faire l'autopsie pourquoi les élections étaient annulées. Entre autres, il y avait la presse qui incitait la population. On les a interdits de diffuser les messages de haine et de la violence pour que les élections soient apaisées et crédibles. Oui, nous nous sommes entendus avec les membres de sécurité. Un journaliste qui va inciter la population à la haine ou bien au vandalisme sera arrêté et la radio sera fermée. Ça, c'est une instruction ferme. Moi, je vous confirme que la presse a joué un rôle qui a fait que les élections soient vandalisées. Par exemple, quand la presse dit en patois, en Kikongo, ben nous faisons bon. Donc, oh, il n'y a pas de machine en forêt. Mais la presse diffusait des mauvais messages. C'est en ce moment que nous sommes dit non. Maintenant, voyons tous dans la même direction. Ne donnez plus de messages incitatifs. Soyons unis et objectifs d'avoir une élection apaisée, transparente.
Dans la province de Lomami, plus de 30 journalistes de la ville de Mweneditu, des territoires de Lwilu et Kamiji, ont pris part hier samedi à un atelier axé sur les rôles des médias durant la période post-électorale. Ces travaux d'un jour ont été organisés par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Mweneditu. D'après Alain Kabongomboui, secrétaire exécutif d'OLPA, le but est de permettre aux journalistes de s'auto-évaluer et de les pousser à améliorer le travail pendant cette période post-électorale. Des explications avec Étienne Lissoumbou.
Au cours de cet atelier, trois thématiques ont été exposées. C'est notamment l'état des lieux de l'accompagnement de la presse locale par l'autorité urbaine. Défis et pistes de solutions exposées par Sébastien Mutombo, chef de bureau urbain de la communication et des médias. Ali Bukasa Kabambi, vice-président et président intérimaire de l'UNPC sous section de Mweneditu, a dans le deuxième exposé abordé les points sur la liberté de la presse à Mweneditu et ses environs. Espoir et réalité après le 10e congrès de la presse tenu à Kinshasa. Maître Umberto Bukasa, coordonnateur président adjoint et porte-parole de la nouvelle cité civile congolaise, coordination de l'OMAMI, a fait une analyse critique de la contribution des médias locaux au processus électoral sur la société civile de Mweneditu. Invité à ses travaux, Gérard Chibanda Kabwe, maire de la ville de Mweneditu, a exhorté les participants à s'auto-évaluer afin de prester d'une manière constructive pour obtenir une presse réellement prospère et légaliste. Signalant que les journalistes ont formulé quelques recommandations pour améliorer leur travail pendant cette période post-électorale. OLP a leur a remis aussi de brevets de participation.
Et puis, une page noire dans cette édition du journal, notre collègue Jemima Diane Mogo, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, est décédée ce dimanche 24 novembre à l'hôpital du Cinquantenaire, ici à Kinshasa. Cette présentatrice des journaux télévisés sur la chaîne nationale a été attaquée par des délinquants il y a quelques jours sur l'avenue Libération, ex-24 novembre, non loin du camp Kokolo, en quête des moyens de transport pour rejoindre son domicile. C'était la nuit, alors qu'elle venait de finir son journal. Elle a ainsi succombé de ses blessures. Madame Sylvie Elengue, DG de la RTNC, regrette cette perte et pense qu'au-delà de la logistique mise en place par la direction de la RTNC, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Elle est jointe par Jacques-Yves Molima.
Je saisis l'opportunité que vous m'offrez sur vos antennes pour présenter nos sincères condoléances à la famille de Jemima Moko Mambasa, ainsi qu'à tous ses proches, ses amis et collègues. C'est une grosse perte pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise de voir qu'un de ses agents, une personne aussi dévouée au travail, de perdre sa vie à la suite d'une agression non loin du camp Kokolo. La question de la sécurité de nos agents est une vraie préoccupation pour nous. Nous avons essayé de réfléchir en interne avec les moyens disponibles. Nous avons mis ce dispositif en place pour permettre à ce que les agents puissent être ramenés chez eux en toute quiétude. Au-delà de ce que nous, dirigeants de la chaîne, pouvons assurer comme logistique, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Par exemple, la réhabilitation de l'éclairage public pour dissuader la constitution des foyers d'insécurité, ça et là, sur le long de ces grandes artères. Ça, c'est peut-être des souhaits que nous pouvons émettre. Ça permettra à ce que les gens puissent vaquer à leurs occupations librement et en toute sécurité.
Autre nouvelle, le budget de la province du Haut-Lomami s'élève à plus de 281 milliards de francs congolais. Il a été défendu le jeudi dernier par le gouverneur Banza Mouloumé Marmont à l'Assemblée provinciale. Comparé à celui de l'année passée, il se dégage une légère augmentation, indique le ministre provincial des budgets. Thierry Caleb Lumbala nous donne d'autres détails y afférents et surtout les sources pour réunir ces montants dans une province qui tarde à décoller. Il a été joint par Jean Gandou.
Le projet de budget se chiffre à 281 milliards 600. Nous avons les recettes internes qu'il nous faudra beaucoup plus mobiliser pour que nous puissions atteindre les assignations que nous nous sommes fixées. Et les recettes internes avec la part qui doit provenir du gouvernement central, il nous faudra des démarches pour que le gouvernement central puisse débloquer dans les délais et cela pourra permettre à ce que notre budget que nous avons arrêté à 281 milliards soit exécuté normalement. Nous allons fournir aussi un effort pour ce qui concerne les recettes spécifiques, ça veut dire les recettes locales constituées des impôts et taxes d'intérêt commun, les impôts et taxes spécifiques à la province. Et quand vous prenez cette rubrique-là et vous y ajoutez des recettes en capital, des recettes exceptionnelles, nous aurons la chance de réunir les moyens et exécuter les travaux prévus dans notre programme d'action du gouvernement. Comparativement au budget 2024, une légère augmentation parce que celui de 2024 était chiffré à 273 milliards. Son taux d'exécution a nagé autour de 20%.
Valoriser la mode congolaise, tel est le but du défilé des modes organisé hier samedi à Kinshasa à l'occasion des DRC Fashion Week. Les thèmes choisis pour cette année est Wolo, traduisé or en français, qui symbolise la richesse de la RDC. Plusieurs personnalités congolaises, dont des artistes, musiciens et comédiens, ont répondu présents à cette activité culturelle. Étienne Lissoumbou y a pris part, suivez son reportage.
Habillés tous en noir doré, les mannequins arrivent sur les tapis rouges pour présenter les différents styles de vêtements à l'assistance dans la salle. Chadrack Lutumba, chargé de communication des DRC Fashion Week, explique l'objectif de cette soirée.
Cet événement a pour but vraiment de ressortir la créativité de jeunes Congolais. On est déjà créatifs à la base. On n'a pas de plateforme pour s'exprimer parce que les plateformes dans la mode est très sélective. Mais cette initiative, qui est une initiative jeune, a pour but de mettre en valeur tous les jeunes créateurs, tous les jeunes talentueux qui n'a pas cette facilité d'entrer dans le secteur de la mode qui est très sélect.
Le mannequinat est un art naturel. Initié au SIA, mannequin professionnel encourage les jeunes et croit en eux pour aller de l'avant.
Pour ceux qui ont toujours voulu se lancer dans la mode, allez-y, foncez. Il faut toujours croire en son rêve, ça peut aller jusqu'aux étoiles.
L'Afrique a fait des avancées significatives aujourd'hui, souligne Lydia Sarah L.O., une invitée à la cérémonie.
Je suis très heureuse aussi qu'on parle de la RDC pour des raisons heureuses. C'est un changement qui est vraiment bienvenu. Et en ce qui concerne l'évolution de la mode, depuis 10 ans, on commence à voir en Afrique des fashion week qui se créent. On a celle de Lagos, on a celle de Dakar. Et il est plus que temps que la RDC prenne sa pleine place dans la mode africaine.
Lancée en 2020, la DRC Fashion Week a né cette année à sa 4e édition.
L'inspection générale des finances annonce dans un communiqué les décès hier samedi à Bruxelles de Victor Batubenga, inspecteur général des finances, chef des services adjoints des suites d'une longue maladie. L'illustre disparu avait participé à plusieurs émissions de Radio Okapi, notamment Parole aux auditeurs. Que son âme repose en paix.
Actualité internationale.
Les Nations Unies ont fait une sortie rare pour s'indigner du viol et du meurtre d'Aïcha Ba, écolière de 8 ans en banlieue de Conakry le 14 novembre. L'Organisation mondiale interpelle les gouvernements et appelle à un sursaut national contre les violences sexuelles qui sont un fléau en Guinée où pas une semaine n'est pas sans que la presse ne s'efface l'écho d'un viol. La dépouille de l'élève de 8 ans a été retrouvée dans les toilettes de son école de Kagbelen à Conakry.
L'invité.
Au Kasaï oriental, les travaux de construction et bitumage de la RN2 Axe Mbujimayi-Cabinda-Banga, long de 280 km, seront lancés incessamment. À cet effet, une délégation du projet d'appui à la connectivité et au transport PACT séjourne en Mbujimayi au Kasaï oriental. La délégation était également à Cabinda, dans la province de Lomami. En quoi consistent ces travaux de bitumage de la RN2? Liliane Moussaou, chargée des questions liées au genre, au projet d'appui à la connectivité et au transport, PACT, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Bonjour, Madame Liliane Moussaou. Vous vous retrouvez en Mbujimayi. Quel est le but de votre mission?
Merci beaucoup, madame. Effectivement, je suis à Mbujimayi, mais pas seulement à Mbujimayi, mais j'ai été aussi à Cabinda. Nous avons pour mission de faire le suivi et la supervision des activités qui sont mises en œuvre par notre partenaire ici au niveau local, qui s'appelle ABF-ND, c'est-à-dire ABF-ONG pour le bien-être familial et naissance désirable qu'on a recruté pour les questions liées aux violences basées sur le genre.
En quoi consiste le projet d'appui à la connectivité et au transport?
En fait, c'est un projet d'abord de réaménagement et bitumage du tronçon Mbujimayi-Cabinda-Mbanga. C'est sur 280 km qui va être exécuté dans sa première phase. Et ce projet va se poursuivre dans sa deuxième phase, qui est celle de Mbanga jusqu'à Penemwanga. Penemwanga, on est déjà dans le Maniema. Et du Penemwanga, on va vers le sud Kivu. Donc, ça va relier la province du Kasaï, Lomami, et Maniema et sud Kivu.
Qui finance ces travaux?
Ces travaux sont financés par le groupe IDA de la Banque mondiale.
Combien de temps ce projet va-t-il prendre?
Pour la première phase, Mbujimayi Cabinda Mbanga, c'est pour 38 mois. J'aimerais ajouter aussi l'autre dimension. Ici, nous sommes au Kasaï. On a plus parlé de la dimension Mbujimayi Cabinda Mbanga. Mais ce projet est mis aussi en œuvre dans sa première phase du côté est. Là, c'est Kanyabayonga Butembo. Là, c'est 130 km. Et de ce côté, c'est 280 km.
Là, il s'agit de tracer donc la route. Et s'il faut l'agrandir, par exemple, y a-t-il un projet par rapport à l'indemnisation des personnes qui sont le long de la route?
Oui, merci beaucoup. Il faut que la population puisse savoir ce genre d'informations. Et c'est très important. En fait, avant même que nous puissions arriver à l'étape où nous en sommes aujourd'hui, il y a d'abord des études qui ont eu lieu ici au niveau du Kasaï oriental et de l'Omami. Il y a cette étude que nous appelons le PAR. C'est un plan d'action pour la réinstallation des personnes affectées par le projet. Donc ce plan-là avait été élaboré, d'abord validé par le bailleur, et puis après publié. Quand on le publie, donc on prend maintenant une organisation pour faire la mise en œuvre de ce plan-là qui a été élaboré. Donc le consultant était venu, il a commencé sa mise en œuvre. Donc la mise en œuvre consiste à indemniser les personnes qui sont affectées par le projet. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo, en fait, qui indemnise. Mais pour ce projet, le gouvernement avait demandé à la Banque mondiale si elle pouvait prendre ça en charge. Et la banque avait accepté. Donc on est en train d'indemniser les personnes qui sont tout au long de la route et qui peuvent être affectées par l'emprise de la route.
Combien de personnes seront indemnisées ?
216 personnes pour ce tronçon-là. On n'a pas encore fini d'identifier les personnes. Pour l'instant, c'est 216. Cela a déjà commencé. Les personnes ont déjà été indemnisées sur une distance de 10 km. Et c'est par là qu'on va lancer les travaux. Parce que ceux qui sont dans les premiers 15 km, il y a des maisons, ça demande un peu plus de procédures. Donc on ne veut pas bloquer les travaux à cause des procédures qu'on va avoir avec les personnes qui ont des maisons. Et ce qu'il faut vraiment dire à la population, c'est de s'approprier de ce projet. De s'en approprier parce que c'est un besoin ultime pour la province. Et les bénéficiaires, c'est cette communauté. Elle doit savoir que pour son développement, il lui faut cette route. Donc, doit suivre les travaux tels que c'est en train de se réaliser, doit accompagner ceux qui sont sur la route en train de faire les travaux, s'il y a des besoins par rapport à ceci, mais pas venir bloquer les travaux. Ça, c'est pas intéressant parce qu'on a vu déjà ce genre d'attitude.
Quelle garantie donnez-vous à ces travaux, donc par rapport à la durée dans sa première phase?
Moi, je suis optimiste à voir la manière dont l'entreprise s'y prend, juste pour la base vie. Et je suis en tout cas optimiste. Et je crois qu'ils peuvent finaliser dans le délai, à moins qu'il y ait d'autres problèmes qui puissent les empêcher. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que la première phase pourra être un succès.
Madame Liliane Moussaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'information vespérale sur Radio Kapi. Merci à Mimi Kindou qui a assuré sa mise en onde. Alain Irung, Mouchinge et Jacques-Yves Molima l'ont préparé pour vous. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle de Radio Kapi, Patience Galulambombo vous dit merci d'avoir été avec nous.